Esprit de Justice qui va s'intéresser ce soir à une figure très contemporaine dont on entend parler pratiquement tous les jours, celle de la victime. La victime qui serait peut-être le refuge du sacré dans des sociétés chrétiennes. Les dernières décennies ont été marquées dans les démocraties occidentales par un phénomène à la fois profond et déroutant, la montée en puissance de la figure de la victime. On en parle d'ailleurs souvent dans Esprit de Justice. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de drames historiques ou de violences familiales, c'est désormais à travers les yeux de la victime que nous nous abordons, que nous nous comprenons nous-mêmes. Le phénomène est notable dans tous les secteurs de la société, dans le droit, où la victime se voit accorder une place chaque jour plus importante dans le procès, dans la littérature, qui se concentre de plus en plus sur les malheurs intimes, dans la politique enfin, où se montrer à côté des victimes, du côté des victimes, est un impératif absolu. Alors, si le mot « victime » est très ancien, il a pris dans la modernité tardive un sens nouveau, qui fait de ce mot, qui fait de la victime, une véritable autorité interprétative de notre monde, pour reprendre l'expression du sociologue allemand Jan-Philipp Reitzma. Au risque de transformer la condition de victime en une qualité ontologique, comme une nature, ce qui la plonge dans une impasse, parce qu'elle n'est plus référée à un événement, elle se voit privée aussi de toute issue à sa condition. La grande question donc n'est pas tant de s'apitoyer sur le triste sort de la victime, mais de savoir comment l'aider à sortir de cette condition. Expliquer cette profonde mutation de notre rapport à la violence, à l'histoire et peut-être au sacré, comme je le disais en commençant, dont témoigne la montée en puissance de la victime, sera le thème d'Esprit de Justice ce soir. Esprit de Justice qui a invité un philosophe, François Azouvi, qui vient de publier aux éditions Gallimard un ouvrage précisément intitulé « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré ».
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir François Azouvi.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation pour aborder cette question, comme je le disais dans ma présentation, qu'on aborde toutes les semaines à Esprit de Justice, mais sans jamais l'approfondir. Alors, pour commencer, François Azouvi, je commencerai parce que dans votre livre, vous opposez la victime à son contraire. Quel est le contraire de la victime? Quel est son antonyme?
C'est une bonne question, évidemment, à laquelle j'ai du mal à répondre, en fait, parce que, justement, la victime est une catégorie neuve, et on serait tenté, bien sûr, de dire que le contraire de la victime, c'est le héros, mais oui et non, parce que le héros, en réalité, se pense et doit être pensé dans son rapport au martyr. C'est avec le martyr qu'il fait couple.
Et quelle différence il y a entre un héros et un martyr?
Alors, je dirais que le martyr, c'est le héros qui a raté, en quelque sorte, ou le héros qui est mort de son héroïsme, si on veut, ou quelque chose comme ça. Le héros, le martyr sont deux catégories qui s'inscrivent dans une sorte de continuum, en réalité. Il n'y a pas de réelle césure entre le héros et le martyr.
Est-ce que le martyr ne serait pas celui qui a succombé, mais qui a consenti à son sacrifice?
Oui, bien sûr, oui. C'est le, si vous voulez, c'est la personne qui se porte au devant de l'épreuve qui va le tuer ou qui va le détruire. Donc, il n'y a pas, et vous avez raison de le souligner, il n'y a pas cet élément de passivité qui est au fond, qui va avec la notion de victime. Dans la notion de victime, et c'est pour ça que j'avais du mal à vous répondre quel est l'antonyme, quel est l'opposé de la victime, c'est qu'il y a dans la victime un élément de passivité qui, on aura certainement l'occasion d'en reparler, qui a été difficile à penser, difficile à concevoir, difficile à élaborer dans nos sociétés où, justement, pendant depuis des millénaires, on vivait sur ce couple héros-martyr. Qui a occupé depuis la haute antiquité, mais aussi toute la civilisation juive et chrétienne, et investi complètement de ce couple héros-martyr.
C'est donc une rupture conséquente de voir arriver la catégorie de la victime.
Ah, mais c'est une rupture décisive. C'est une rupture décisive. C'est une rupture anthropologique évidemment, mais sans doute nous en reparlerons. C'est aussi, je crois, une rupture théologique d'une certaine manière, en tout cas qui est concerné par le religieux. C'est une rupture énorme dont il faut dire tout de suite que elle n'est pas propre à la France. C'est un événement
général, par contre, à toutes les démocraties occidentales.
Oui. Grosso modo, oui. Alors ça s'est pas exactement passé de la même manière partout, sans doute, ni exactement au même moment, quoique ce soit presque toujours à peu près dans la même décennie que ça s'opère. Mais effectivement, c'est un bouleversement anthropologique énorme.
Mais alors, la première explication qui vient à l'esprit, Françoise Ouvis, c'est de dire on s'intéresse moins aux héros parce qu'il y a moins de combats, tout simplement, parce que le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été le conflit dans lequel on a été partiellement engagé, et bien sûr Première Guerre mondiale dont on parlera, mais il n'y a plus de combats aujourd'hui, François Azouvier, donc il n'y a plus de matière à héros.
Alors oui, c'est vrai, il y a moins de combats, où ils sont relégués un peu plus loin, quoi que ce soit moins vrai en ce moment.
Oui, c'est...
Mais oui,
il y a j'en ai bien conscience.
Il y a du vrai, bien sûr, dans ce que vous dites. Mais je ne crois pas que ce soit que ça explique tout néanmoins. Alors, je pense que en effet, le choc des deux guerres mondiales a été tout à fait capital pour dévaluer la figure du héros. Ça s'est fait d'ailleurs. Ça s'est fait en deux temps. La dévaluation du héros après la Première Guerre, elle existe partiellement. Ce qui m'a frappé, j'ai essayé de reconstituer cette histoire, c'est que dans l'entre-deux-guerres, en fait, l'héroïsme ne disparaît pas, ne sombre pas. Il se reporte sur d'autres valeurs que la guerre. Il se reporte, par exemple, sur le sport. Il se reporte sur l'exploration, sur l'aviation, des catégories civiles, mais...
Et notamment techniques.
Oui, bien sûr, notamment, mais où est demandé de la part du héros, de la personne qui accomplit l'exploit, est demandé une forme d'exploit, une forme de dépassement de soi, qui est évidemment cousine germaine de l'antique héroïsme. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, et après une brève embellie de la catégorie d'héroïsme dans le contexte de la guerre, ce qui peut évidemment se comprendre, la catégorie du héros sombre très vite. Dès les années 50, en réalité, l'héroïsme s'use. Les héros sont fatigués.
Mais pourquoi, Françoise Ouvis? Parce que aujourd'hui, on déboulonne les statues pour des raisons de mémoire coloniale et pour des raisons d'injustice. Et effectivement, que tous les héros ont une part d'obscurité, ont une part sombre. Ils n'ont pas. Personne n'a été héroïque toute sa vie. Et finalement, on a l'impression que notre époque ne supporte plus cette impureté et que c'est pour ça qu'elle déteste ses héros.
Je ne sais pas pourquoi elle ne les supporte plus. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est certainement compliqué. Mais le fait est que elle les supporte mal. Et je vous citerai cette anecdote qui est maintenant devenue bien connue. C'est celle du cas de Arnaud Beltrame, le colonel Beltrame. Bon, vous savez, au moment de après sa mort, donc vraiment comme héros, alors là pour le coup, une plaque avait été apposée au jardin où il avait été tué, et on avait marqué ceci: Arnaud Beltrame assassiné le temps, bon, victime de son héroïsme. Et c'est extraordinaire comme formule. Oui. Bon, on peut pas exprimer mieux
l'ambivalence.
Voilà, oui, l'esprit d'une époque. Voilà. D'une époque, oui. Alors, je suppose qu'évidemment, ceux qui avaient fait cette plaque avaient voulu lui donner un supplément de valeur en disant ça. Mais
c'est quasiment un oxymore. C'est une contradiction dans les termes.
Bien sûr, bien sûr. Je pensais en pensant à cet exemple, au contre-exemple. Est-ce qu'on peut imaginer Malraux quand il a fait son discours de panthéonisation de Jean Moulin en 64, est-ce qu'on peut imaginer Malraux disant de Jean Moulin qu'il avait été victime de son héroïsme? Évidemment
bien
pas.
Sûr. Alors, justement, parlons de Malraux. Parce que Malraux me semble être un bon exemple de quelqu'un qui en a peut-être plus raconté que ce qu'il avait fait. Ça, tout le monde le sait, le suspecte. Mais il a quand même fait la guerre d'Espagne dans l'aviation. Il a été résistant, etc. Et je pense à l'ouvrage de Simon Less, assez au vitriol contre Malraux, en disant ce n'est pas un héros, c'est un imposteur, quasiment. Il ne dit pas ça, mais quasiment c'est un imposteur. Est-ce que ça ne traduit pas, déjà avant même qu'on parle de victime, François Azouvi, cette sorte de j'ose pas dire de détestation, mais de plaisir à faire tomber des statues?
Mais c'est pas tellement avant. Je crois que c'est à peu près dans cette... j'ai plus en tête exactement la date du livre, mais c'est dans cette même...
Oui, c'est dans cette mouvance, absolument.
Oui, c'est dans
absolument.
Cette même période. Oui. On s'est mis, en effet, à soupçonner les héros. Alors, ça date des années 70, à peu près. À les soupçonner toujours d'avoir été des faux héros, ou d'avoir triché,
ou de pas tout dit.
Tout dit.
Mais alors, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, il s'est passé quand même un événement majeur, et qu'on a un peu oublié d'ailleurs aujourd'hui. Les lecteurs de votre livre vont retrouver non seulement ces époques, mais le parfum de ces époques. Ce sont les guerres anticoloniales, et c'est cette grande période de la Révolution. François Azouvi, de la Révolution, ça c'est vraiment la grande figure de l'après-guerre.
Alors, oui, vous avez raison. Ces formations à la fois intellectuelles et politiques qui président aux guerres, qui président à la décolonisation, vont pendant un temps recycler la figure du héros. On va voir ça même tardivement jusqu'au cas du Vietnam, c'est-à-dire à une époque où le héros est totalement démonétisé, par exemple chez nous, en France, la figure du Vietnam, la figure du combattant vietnamien et de ceux qui l'aident, est une figure très fortement héroïsée. Et je me rappelle plus la date exacte, mais au moment de 68, il y avait une grande manifestation à Paris, et les manifestants avaient décidé de rebaptiser le boulevard Saint-Michel « Boulevard du Vietnam héroïque ». Bon,
vous mentionnez l'action de Cieno Grimbach,
voilà.
Ça ne s'invente pas. Une grande figure et un grand avocat aussi.
Et neveu de Mendès France.
Ah oui, c'est ça, que j'ai appris dans votre livre.
Et donc, là, pour revenir à votre question, effectivement, les mouvements tiers-mondistes et les mouvements de décolonisation vont s'inscrire dans une perspective révolutionnaire, donc vont... magnifier le héros.
Il n'aime pas être qualifié de victime, dans le fond. C'est très frappant de voir le colonisé. Et même les esclaves ne veulent pas se laisser enfermer. Il y a cette fameuse phrase de Frantz Fanon, il ne veut pas devenir l'esclave de l'esclave, de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, la victime n'a pas bonne presse.
Non. Pas du tout. Et même quand j'ai fait ce livre, je cherchais, on en reparlera tout à l'heure, mais je cherchais quelles quelles étaient les voies par lesquelles s'était effectuée cette victimisation, cette élaboration de la catégorie de victime. Et spontanément, je m'étais dit, c'est du côté des colonisés, c'est du côté des Noirs qu'il faut chercher. Mais en réalité, non. Ça va être beaucoup plus tardif. Dans les années 50, 60 et même le début des années 70, la ferveur révolutionnaire est incompatible avec l'idée d'une victimisation. Ce sont pas des victimes, ce sont des peuples qu'il faut libérer. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Mais dans le même temps, la société française, alors abstraction faite de ces mouvements tiers-mondistes, disons, pour aller vite, dans le même temps, la société française s'élabore la catégorie de victime à bas bruit, sans que ce soit véritablement théorisé, ni même sans doute consciemment vécu ou consciemment pensé ou consciemment dit, mais...
Vous voyez ça où ?
Alors, principalement à propos des Juifs de la solution finale.
C'est ça.
C'est par eux qu'est passé ce mouvement d'élaboration lent, compliqué, de la catégorie de victime.
Mais lorsque, dès 45, au retour des rescapés des camps, comment en parle-t-on ? Comment on parle-t-on, bien sûr, on en parle comme des rescapés, mais je veux dire, quel paradigme, si je peux exprimer ainsi, intellectuel, permet de décrypter cette condition terrible qui a été la leur pendant le génocide et pendant la Deuxième Guerre mondiale?
Alors, d'une façon qui, ça c'est un des thèmes qui m'a beaucoup retenu et sur lequel j'ai buté très longtemps, on en parle d'une façon qui rend ce discours de l'époque très inaudible pour nous. Parce que on parle des Juifs, justement, comme héros ou comme martyrs. Et on comprend très bien d'ailleurs pourquoi. C'est que la catégorie de victime implique une passivité. Et on veut valoriser les Juifs du judéocide, les morts ou les survivants. On veut... Oui, les valoriser. Et comment les valoriser ? Eh bien, précisément, en les traitant de héros ou de martyrs. Le martyr étant la version qui a échoué, comme je disais tout à l'heure, du héros. Et il y a même des textes d'écrivains juifs qui sont très très clairs là-dessus, où les catégories de héros, de martyrs et de victimes sont employés, sont essayés à propos des Juifs, et la catégorie, pardon, de victime est éliminée parce que justement elle est négative.
Elle est infamante.
Elle est infamante. Et on ne veut pas penser le martyr des Juifs dans des catégories qui puissent les rabaisser. Donc on en fait ou des héros ou des martyrs. Et parfois, par exemple, on va dire, ils sont les héros de leur souffrance. Vous voyez ?
C'est ça. Mais alors, il faut quand même trouver un sens, parce que cet effondrement absolu du sens, de la signification et de la politique qui caractérise la Shoah, le judéocide, il faut lui trouver un sens.
Mais justement, la catégorie de martyr ou de héros permet de trouver un sens. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les religieux pour qui le meurtre des Juifs a un sens religieux ou chrétien. Parce que beaucoup de catholiques christianisent.
Très surprenant dans votre livre de voir à quel point il y a une vision chrétienne de la Shoah dès les années 45-47.
Mais c'est même la première.
Et c'est la première.
Oui, c'est la première. C'est la plus puissante, d'abord parce que la France est un pays catholique, donc c'est la plus puissante en termes quantitatifs. C'est la plus puissante aussi parce que ceux qui emploient ce langage sont les ténors de la vie intellectuelle, de la vie chrétienne. C'est Claudel, c'est Jacques Maritain, c'est Julien Green, c'est François Mauriac, c'est bon, voilà. C'est tous les ténors du christianisme. Et eux, dès la guerre, sans attendre même la fin de la guerre, procède à une analogie qui est évidemment tentante, qui est de dire les Juifs revivent le calvaire, revivent la passion, les Juifs connaissent eux aussi le calvaire.
Et c'est accepté. C'est accepté par la communauté juive.
Très bien. Très bien. Il n'y a pas du tout très peu en tout cas, j'en ai pratiquement pas trouvé de plainte pour annexion, en quelque sorte.
C'est ça, c'est ça.
Non, parce que je pense que les Juifs, eux aussi, sont désireux de voir leur supplice d'abord penser, ce qui est la première chose, pour pouvoir maîtriser l'événement, il faut le penser, et puis magnifier. Donc, ils ont bien conscience qu'il s'agit là d'une opération qui hausse, en quelque sorte, leur supplice.
Mais parce qu'entre le martyr et le sacrifice consenti, finalement, ce sont deux notions très très proches, il n'y a qu'un pas.
Bien sûr. Absolument. Le martyr, c'est celui qui témoigne. Alors, il y a plusieurs déclinaisons, si vous voulez, de cette façon d'interpréter le martyr ou le martyr juif. Il y a ceux qui disent, par exemple, les Juifs ont témoigné pour la liberté, pour le combat antifasciste. Alors, ça va être principalement les communistes, bien par sûr. Exemple. Mais pas que. Plusieurs esprits, bons esprits...
Et donc, ce sont des combattants.
Ce sont des combattants. Ce sont des combattants qui ont combattu sans armes, mais à leur façon, ils ont combattu l'hitlérisme. Et donc, ce sont des martyrs, et ce sont surtout pas des victimes.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur l'évolution, le sens du succès de la figure de la victime dans les débats contemporains, en compagnie de François Azouvi. François Azouvi qui a choisi de nous faire entendre cet air, La mort de Didon, dans Didon est né, qui était chanté ici par Jesse Norman, et c'était l'orchestre de chant anglais dirigé par Raymond Lepard. La mort de Didon, François Azouvi.
Ben, c'est un bon exemple, je trouve, de ce qu'était la, non pas la victime, justement, mais le martyr, avant,
oui.
dans la civilisation qui nous a précédés, parce que Didon n'est certainement pas une victime, elle est volontaire pour disparaître de la scène, puisque Énée doit partir. Oui. Et dans les deux cas, aussi bien Énée que Didon, ce sont les dieux qui commandent. Donc ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la transcendance qui intervient, qui agit, et ils sont les témoins, les martyrs si on veut, les témoins de cette décision qui les brise et qui tue Didon.
On a beaucoup parlé de, et on parle beaucoup là, toujours maintenant, de religion, François Azouvi, dans le fond, pour se comprendre et pour comprendre des choses aussi terribles que le judéocide ou aussi terribles que la guerre et cette désolation, ces morts inutiles, on a besoin d'avoir recours à une théologie qui donne du sens au négatif. Est-ce que c'est pas dans cet effondrement théologique, appelons-le ainsi, ça va un peu vite, qu'il faudrait chercher la montée en puissance du terme de victime?
Mais je crois que oui. Je crois qu'en effet, le fond de l'affaire est théologico-religieux, si on veut. Oui, je crois que c'est vraiment le fond de cette affaire. C'est un peu compliqué, c'est complexe. Parce que plusieurs choses, plusieurs mouvements, plusieurs choses se mêlent, ont lieu en même temps. Il se passe ce phénomène que je crois d'une importance absolument considérable, c'est que la conscience du judéocide, la conscience du drame qu'a été le meurtre de 6 millions de Juifs, croît. Progresse en France et dans tout l'Occident, évidemment, à mesure qu'on s'éloigne de la guerre, non pas qu'on l'ait pas compris ou qu'on l'ait pas mesuré, d'ailleurs, au lendemain de la guerre, pardon, mais cette conscience va en progressant, va en augmentant. Et on se trouve devant le cas d'un meurtre, bien sûr, délibéré, d'une proportion qui ne ressemble à rien de ce qui s'est passé auparavant, et devant lequel on balbutie. Alors, dans un premier temps, comme vous le disiez tout à l'heure, les chrétiens s'emparent, mais je le dis pas du tout en mauvaise part, s'emparent de l'événement, et eux disposent des concepts pour pouvoir penser l'événement, et ces concepts, ce sont ceux de la théologie.
C'est la dimension christique.
Comment ?
Cette dimension christique.
Oui, absolument. Donc, c'est pour ça, sans doute aussi, qu'ils sont les premiers à fournir une interprétation de l'événement, parce que cette interprétation, elle est déjà avec eux. C'est le Christ, c'est éventuellement le second Isaïe qui préfigure le Christ, etc. Donc, ils sont les premiers, ils sont tout de suite capables d'interpréter, de comprendre, enfin de donner une interprétation en tout cas, de ce qui s'est produit. Mais dans les années qui suivent la guerre, dans les 20 années ou les 30 années qui suivent la guerre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que un énorme mouvement de déchristianisation s'opère, le religieux s'efface, très vite d'ailleurs, d'une façon à la fois particulièrement rapide et particulièrement forte, et cette interprétation religieuse ne prend plus, n'a plus cours.
C'est ça. Et particulièrement non aperçu, c'est-à-dire que ce phénomène de déchristianisation ou d'effondrement du religieux, et finalement ne fait pas tant parler que cela.
Non, il fera parler quand il sera devenu absolument massif, c'est-à-dire à peu près dans les années 70. Là, les observateurs de la vie française, de la vie religieuse ou de la vie sociale, se rendent compte que il s'est passé quelque chose de majeur.
Donc votre thèse, François Azouvi, c'est de dire, la figure de la victime va se sacraliser à ce moment-là, ce qui est paradoxe, quoi, ce qui est difficilement compréhensible.
Pas si difficile, parce que comme je vous disais il y a un instant, ceux qui réfléchissent à l'événement, à ce qu'on a appelé maintenant la Shoah, ceux qui réfléchissent se trouvent devant le cas d'un événement de proportion infinie qu'on ne sait pas penser. Et à partir du moment où, justement, l'explication chrétienne, ou même juive d'ailleurs, commence à s'effacer, n'est plus recevable, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que, très spontanément, surgit, pour qualifier ce qui va s'appeler les victimes, surgit l'adjectif sacré. Il y a quelque chose de sacré dans cet événement, dans les personnes que cela a frappées et dans celles qui survivent.
Et d'ailleurs, il y a un auteur qu'il faut citer là, c'est Elie Wiesel.
Oui,
qui va jouer un rôle considérable dans cette mutation.
Je crois. Oui, je crois. Je crois en effet qu'il joue un rôle énorme. D'abord parce que c'est lui. Je veux dire qu'il, oui. Voilà, vu l'immensité de son aura, de la répercussion de sa parole, etc. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il fait, est reçu à peu près dans tout le monde occidental. Et alors lui, justement, il se casse les dents, si je puis dire, sur la contradiction que recèle l'événement du judéocide. Cette contradiction, pour la formuler rapidement, on pourrait dire la chose suivante: on ne peut pas penser Auschwitz sans Dieu, mais on ne peut pas penser Auschwitz avec Dieu. En gros, c'est ça. Et Wiesel va buter sur cette aporie, sur ce que j'appelle cette théologie de l'oxymore, toute sa vie, sans jamais pouvoir la dépasser, pour la bonne raison que, justement, il professe qu'on ne peut pas dépasser.
C'est ça. Mais est-ce qu'il s'en sort pas, justement, en sacralisant la victime ?
Alors, il s'en sort, évidemment. Il s'en sort, si on peut dire, en sacralisant la victime, mais il n'est pas seul. Ça s'inscrit dans un mouvement où, au fond, ça rencontre une aspiration très générale qui est de conférer à la victime une sorte de dignité en dépit, et ça deviendra ensuite grâce à, en dépit de la passivité qui a été son fait. Et c'est là où c'est tout à fait, pour moi, ça a été tout à fait passionnant de le voir et de le voir en détail. Comment on construit progressivement et difficilement, laborieusement, cette idée qu'il puisse y avoir de la grandeur à avoir été une pure victime parfaitement passive.
Parfaitement passive.
C'est ça qui est une nouveauté absolue, je crois, dans l'Occident. Et c'est ça qui est... Parce que je dis une nouveauté absolue, parce que on a dit parfois, oui, mais dans le christianisme, il y a cette idée. Évidemment, le sacrifice du Christ, il y a cette idée. Mais oui, bien sûr, exactement. Sauf que ça n'est précisément pas une victime. Le Christ n'est pas une victime, c'est un martyr. Et il témoigne, le martyr est un témoin.
En d'autres termes, la victime naîtrait, dites-vous, je vous cite, du découplage du religieux et du sacré.
Je le crois. Je le crois. Je pense que le religieux, en effet, s'efface dans les 20 ou 30 années qui suivent la guerre. Je le pense d'ailleurs, je suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais je le pense avec les historiens du religieux qui ont documenté de façon très précise cette question. Le religieux s'efface. Et à mesure qu'il s'efface, ou dans le même temps où il s'efface, on voit monter en puissance la sacralité de la victime. Et on va la voir monter en puissance, pas simplement dans le cas de la victime juive, mais dans le cas des victimes en général.
Oui, des victimes en général. Et on va vite voir s'installer quelque chose Ricoeur appelle ça le mauvais infini de la victime, c'est la concurrence des victimes. J'ai plus souffert que toi, non. Et on arrive d'ailleurs à cette sorte d'ambivalence, du coup, à l'égard cette concurrence crée une sorte d'ambivalence à l'égard du judéocide, en disant, mais est-ce que c'est pas un événement, est-ce qu'il n'y a pas un monopole du sacré par les victimes juives ?
Oui, je pense, malheureusement, que la concurrence des victimes est inhérente à la victime,
inscrite
est inhérente
dedans.
À la victimisation. Je voudrais bien qu'il n'en soit pas ainsi, mais je pense que c'est absolument inhérent. Et d'ailleurs, cette concurrence des victimes, on la voit surgir, d'abord de façon très ténue, évidemment, on la voit surgir exactement en même temps que surgit la victime elle-même. C'est dès que on commence à parler de victimes, aussitôt surgissent d'autres catégories sociales de la population qui disent « Mais attendez, il y a d'autres victimes que les Juifs ».
Mais François Azoulay, est-ce que c'est pas lié justement, est-ce que c'est pas le piège de ce que vous disiez, c'est-à-dire de sacraliser la passivité et donc de sacraliser la souffrance? La souffrance ne peut s'apprécier qu'en intensité, alors que le martyr, comme le héros, sont référés à l'action et donc à une valeur de l'action. Et je crois que là, on est dans cette pente qui va, dont on va parler maintenant, mais qui est une pente qui est peut-être une impasse, c'est-à-dire d'avoir une conception de la valeur référée exclusivement à de la souffrance.
Oui, vous avez employé une formule à laquelle j'avais pas pensé, mais qui est tout à fait exacte. La souffrance est quantitative.
Oui, quantitative.
C'est exactement. Tandis que l'héroïsme, ni l'héroïsme ni le martyr ne sont quantitatifs. Et c'est tout à fait vrai. Et dès qu'apparaît la victime, apparaît cette question de l'Olympiade de la victime, avec « j'ai souffert plus que toi
». C'est ça. Et puis alors après, on va penser au colonisé, à cette figure du colonisé, qui encore une fois est tout à fait incongrue par rapport à Frantz Fanon et par rapport, j'allais dire, au père fondateur de la lutte anticoloniale, qui était opposé à cette condition de victime. J'en veux d'ailleurs aussi pour preuve que dans la banlieue aujourd'hui, c'est une injure, hein. Je ne suis pas une victime.
Bon.
Mais il y a d'autres personnes qui vont venir s'inviter au bal, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas uniquement les colonisés, c'est aussi les Noirs. C'est aussi les Noirs aux États-Unis. C'est aussi les différences raciales.
Bien sûr. Alors, les Noirs, je m'attendais, comme je vous disais tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'ils surgissent tout de suite, mais non, car justement, les Noirs, comme les colonisés, et d'une certaine façon comme les femmes, sont pris dans une rhétorique de la libération. Il ne faut pas ce ne sont pas des victimes, ce sont des peuples à libérer, ce sont des hommes à libérer. Ce ne sont pas des victimes. Donc leur cause surgit tardivement en tant que victime. Alors là, bien entendu, ça nous vient en France, ça nous vient des États-Unis.
Oui.
Le mouvement s'amorce aux États-Unis, comme on le sait bien. Et ce qui est tout à fait passionnant, et c'est bien connu d'ailleurs aussi, c'est que ce mouvement s'amorce aux États-Unis et très vite s'amorce aussi la concurrence entre les victimes. Au début, par exemple, dans les années 50, les Juifs et les Noirs
faisaient cause commune.
Voilà, font cause commune, travaillent ensemble.
Ça se voit d'ailleurs dans Mississippi Burning, oui, un tas de films dans lequel on voit cette solidarité
absolument
spontanée entre les
absolument.
Les
Juifs elle, et les Noirs. Elle est dite, voilà, et on sent bien que c'est la même cause. Mais très vite, c'est-à-dire dès les années 60, la compétition surgit.
Oui.
Nous avons souffert plus que vous. Pensez à l'esclavage. Il y a eu beaucoup plus de victimes que chez les Juifs. Et d'ailleurs, vous, les Juifs, vous demandez des réparations à l'État allemand. L'État d'Israël demande des réparations à l'État allemand. Eh ben, nous aussi, on va en demander.
Et ça, alors là, vous faites intervenir François Azoulay un thème qui va devenir très important et qui l'est toujours aujourd'hui. C'est le thème de la justice. C'est-à-dire la condition de victime devient une qualité dont on va pouvoir faire fructifier en quelque sorte en justice pour les meilleures ou les pires des raisons. Et parce que intervient aussi une autre histoire qui rencontre celle des victimes, qui est celle des droits de l'homme.
Mais évidemment. Bien sûr, ce mouvement des victimes est inséparable en Occident de la grande promotion des droits de l'homme qui s'effectue comme la promotion des victimes qui s'effectue dans les années 70.
Et qui s'effectue au détriment de la politique.
Oui.
Et vous insistez là-dessus parce qu'on a en France notamment deux auteurs majeurs qui sont Marcel Gauchet et Claude Lefort, qui ont très bien vu ce piège qui a trop valorisé des droits de l'homme. Et des droits de l'homme, avec cette dimension victimaire, on allait en quelque sorte réduire la surface et l'importance du politique.
Oui. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable dans le cas des deux auteurs que vous citez, c'est qu'ils l'ont vu tout de suite.
Oui.
Ils l'ont Marcel Gauchet a écrit son article fameux en 80.
Oui.
Les droits de l'homme sont-ils une politique ou ne sont pas une politique? C'est très très frappant.
Remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if pre-arranged the old prayer they had neglected for so many years, the forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Réveil! When it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You have been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep?
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur la montée en puissance de la figure de la victime depuis au cours du XXe siècle, pourrait-on dire, en compagnie de François Azouvi. François Azouvi qui vient de publier un livre précisément à ce sujet du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré, et qui a choisi de nous faire entendre ce deuxième secondaire, Kadish, le survivant de Varsovie, de Schoenberg, qui était interprété ici par Noam Sherif, et c'était l'orchestre de Lucerne, dirigé par John Axelrod. François Azouvi, ce choix,
On est encore là. Oui, il a composé ça juste au lendemain de la guerre. Je crois que c'est 47, mais je suis pas très sûr. Il me semble. On est encore là dans la période où justement
religieuse.
Le héros est valorisé. Mmh. Et donc c'est du héros, du survivant du ghetto de Varsovie qu'on parle. Dans la même période en France paraissent plusieurs livres justement sur le ghetto de Varsovie, sur la résistance juive, parce que on cherche à magnifier l'héroïsme juif. On n'est pas encore capable de se dire et de penser que les juifs ne sont morts ni pour Dieu, ni pour la sanctification du nom, ni pour la liberté, mais qui sont morts pour rien. Et ça a été un travail très considérable, long et terrible, en fait.
Est-ce que ce nihilisme ne fait pas partie de la notion de victime? De toute façon, la victime, c'est quelqu'un qui n'a plus accès à l'existence, qui n'a plus accès à l'action. C'est ça, la passivité, d'ailleurs.
Oui.
Et donc, elle va retrouver de l'action dans la protestation, dans la concurrence des victimes peut-être, et dans l'action en justice.
Oui.
Et on va voir se multiplier les lois, assez récemment d'ailleurs, hein, je pense à la loi Taubira, je pense à toutes ces lois, qui vont essayer de, à la fois de profiter de ce mouvement en faveur des victimes, mais aussi de le cadrer, de le contenir, François Zouvi.
Oui, non, vous avez tout à fait raison. Mais avant d'en venir aux lois, qui sont un chapitre absolument capital de cette histoire, je voudrais insister sur la difficulté qu'a éprouvée la pensée occidentale à accepter cette catégorie de victimes. Alors, la catégorie de victimes a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, a aussi son revers, précisément la concurrence des victimes et peut-être la sacralisation, j'en sais rien, mais c'est aussi une conquête, ça a été aussi une conquête de la pensée contemporaine et de la pensée morale que de reconnaître un statut à la pure souffrance, à la souffrance qui n'est pas accompagnée d'une volonté, d'un effort, qui n'est pas le fait de quelqu'un qui se porte volontairement au devant de l'épreuve, mais qui la subit. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est une avancée. Alors,
oui, une avancée aussi dans l'attention aux petits. Hein, l'attention aux petits, comme dirait Adorno. Et on la voit toujours aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement aux dominés, mais aux petits, aux oubliés de l'histoire. Et dans le mouvement actuel en faveur des droits de l'enfant, enfin des droits des femmes, c'est-à-dire c'est toute cette idée qui est à mon avis assez forte, c'est même assez puissante. C'est comment on fait une démocratie avec des petits, avec des gens laissés pour compte.
Oui, c'est toute la difficulté de nos, je crois, toute la difficulté de nos sociétés. Et là, on revient au cas des lois que vous évoquiez tout à l'heure. Car ce qui est frappant, c'est que à partir du moment où émerge la victime et à partir du moment où le mouvement de la victime rencontre le grand mouvement de promotion des droits de l'homme vers les années 70, se forge cette entité parfaitement neuve, que nous connaissons bien, qui est l'individu porteur de droits et qui devient victime dès lors que ses droits ne sont pas, bafoués, ne sont pas acceptés. Et cette figure du porteur de droits susceptible de devenir victime va évidemment donner lieu très rapidement à une sorte d'inflation législative qu'on va voir dès les années 90 et puis dans les années 2000 aussi.
François Zouvi, est-ce que le droit n'est pas une théologie de substitution? Là aussi, on trouverait beaucoup d'auteurs qui vont parler de la religion et des droits de l'homme, alors de manière pour la dénoncer, de manière caricaturale. Mais dans le fond, n'y a-t-il pas un fond un fond structural d'identité entre un discours explicatif? On ne vit pas sans explication du malheur. Aucune société ne vit sans un système d'interprétation du mal qui arrive, d'un mal aussi massif.
C'est toute la difficulté. C'est toute la raison d'être de la victime et toute sa difficulté. C'est toute la difficulté de cette notion. Je crois, vous le dites vous-même dans l'un de vos livres ou dans l'un de vos textes, je ne sais plus, vous dites qu'aucune société ne peut se dispenser de penser le mal, le négatif. Et alors, ce qui se produit, si vous voulez, dans nos sociétés, c'est que, si vous acceptez l'idée que le religieux s'est effacé de nos sociétés, que le théologique s'est effacé de nos sociétés, eh bien justement, on se trouve extraordinairement court pour penser le négatif, pour penser le mal. Et c'est là que la catégorie de victime prend toute son importance.
Je me demande, François Zouvi, pour essayer de voir quelles sont les perspectives pour sortir de ces apories, de la notion de victime qui a ses mérites. On est tout à fait d'accord. Est-ce que finalement, la victime n'est pas une façon a contrario de s'intéresser à une définition de l'homme? Dans le fond, ce qui serait le grand phénomène de l'après-45 serait l'arrivée de cette idée d'humanité d'un homme qui, par définition, on ne connaît pas, qui n'a pas de définition. Et est-ce qu'à travers la victimité, on ne parle pas en positif de l'homme et de l'humanité?
Est-ce qu'on peut parler de l'humanité sans parler d'une transcendance? C'est la question que je me pose et que je ne résous pas vraiment. Mais
c'est la question de la modernité, bien sûr.
J'ai du mal à penser que la catégorie d'humanité n'appelle pas, d'une façon ou d'une autre, hein, bien sûr, n'appelle pas une forme de transcendance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit historique.
Que l'humanité puisse faire transcendance, justement. C'est un peu ce qu'on voit dans les textes actuels, le crime contre l'humanité, le génocide. C'est-à-dire, on pense par l'extrême une transcendance négative, mais une transcendance quand même.
J'ai peur que ce soit se payer de mots. Je ne vois pas sur quoi ça peut vraiment déboucher. Je pense qu'on essaye, on essaye presque désespérément de fabriquer une sorte de dépassement avec l'humanité, avec la faute, avec mais je ne le vois pas. Je ne vois pas ce dépassement se faire réellement jour. Et, quand on regarde, par exemple, les formes tout à fait contemporaines de la victimisation dans la société d'aujourd'hui, la pensée woke, un certain féminisme, l'intersectionnisme, enfin, tous ces mouvements qui nous viennent d'ailleurs en majorité des États-Unis, ce sont des mouvements qui rabattent totalement le malheur sur la figure de la victime, sans aucune perspective de rémission ou de salut, si on veut. La victime, est, comme vous le disiez pour commencer d'ailleurs, la victime est ontologiquement une victime. On le voit très bien dans le cas du féminisme, par exemple. Les femmes qui ont été victimes d'un viol et qui disent « mais oui, j'ai été victime d'un viol, mais c'est le passé et depuis je ne suis plus une victime », ces femmes-là se font mal voir par les autres. Il y a une sorte d'ontologisation de la victime dont on veut qu'elle demeure.
Alors,
victime.
Comment en sortir, Françoise Ouvi? Parce que c'est une question majeure, et on le voit, vous avez raison de le dire, en ce qui concerne le viol, et en ce qui concerne d'ailleurs aussi, je pense à des formes de, comment dirais-je, de justice par la parole, justice par le récit. Oui. C'est-à-dire l'importance que prend le récit aujourd'hui, qu'il prenait d'ailleurs déjà aussi dans les années 60 avec la Shoah, et je suis frappé. Je ne suis pas seul à l'être, hein, dans la littérature, l'importance majeure du récit qui est un matériau fondamental, constituant d'une issue, parce que un récit, ben, c'est toujours une mise en intrigue. Une mise en intrigue, c'est un dénouement, Françoise Ouvi.
Oui, alors je sais bien, je vois à quoi vous faites allusion, vous y travaillez vous-même, et c'est toutes les formes de justice contemporaine, de justice transactionnelle, qui sont...
Est-ce que dans l'idée de réparation, je continue la même idée pour vous pousser dans vos retranchements, Françoise, oui, parce que finalement vous insistez à plusieurs reprises sur cette idée que je trouve très intéressante et que je partage d'ailleurs en disant la victime c'est une sorte de concept transitoire. La victime c'est un concept symptôme qui montre qu'une société se cherche, qu'une société cherche à retomber sur ses pieds, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à retrouver une forme de transcendant qui pourrait peut-être d'ailleurs être un pluralisme, un bouquet de transcendants. Et donc, une société qui se cherche. Est-ce que l'importance que prend un autre terme aujourd'hui, cette idée de réparation, réparer le monde, se réparer soi-même, réparer une relation, c'est, et y compris d'ailleurs au point de vue très très matériel, réparer ce qui est cassé. Est-ce que vous ne voyez pas une sorte d'issue, de voie au relèvement de l'impasse de la victimité?
Alors, oui, je pense pour une part que vous avez raison et que on peut et on doit chercher dans cette direction une forme de restauration du tissu social. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je doute que ça suffise à faire société, comme on dit aujourd'hui, parce que je ne vois pas comment des individus qui sont des victimes peuvent s'agréger, même si ces victimes sont réparées, mais comment elles peuvent s'agréger pour devenir les parties d'un tout qui les dépasse. Ce qui me rend pessimiste, ou en tout cas interrogatif sur la société d'aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes dans une société d'individus porteurs de droits, d'individus qui se considèrent ou qu'on invite à se considérer comme victimes, mais sans dépassement vers les autres, sans possibilité de passerelle vers les autres. Vous voyez, quelque chose qui isole la victime. Alors, je vois bien que la réparation, vous avez raison, la réparation est une façon de refaire.
C'est un
lien.
Signe, c'est l'expression d'une attente. Mais, c'est l'expression d'une attente de
j'en suis
nouvelle.
Sûr. J'en suis sûr. Alors, là où j'ai des doutes, et peut-être je diffère de vous, c'est que cette attente, je ne vois pas comment elle peut déboucher sur la fabrication d'une communauté politique. C'est ça le, je vois bien comment on peut fabriquer une société de gens qui vont se parler, qui vont davantage se parler parce qu'ils seront davantage réparés. Ça oui. Mais je ne vois pas comment ça peut fabriquer une société, une communauté politique, laquelle, pour moi, et pour d'autres, va forcément avec la notion de quelque chose qui dépasse les individus.
Françoise, vous, dans votre livre, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous montrez à quel point, vous l'avez redit ce soir, vous montrez à quel point les lectures religieuses, je dis bien les lectures religieuses au pluriel, étaient vivantes, et à travers plusieurs revues, les temps modernes, Esprit, des films, Shoah, etc., mais Shoah n'était pas religieux, mais des revues au moins, et donc on a l'impression que les religions se parlaient et qu'il y avait des transcendances. Est-ce que vous ne voyez pas une issue dans, non pas la transcendance, mais dans une communauté politique un peu à la Rawls, à la John Rawls, qui serait dans une conversation de ces différentes transcendances, étant entendu qu'on ne pourra pas sortir de la condition de victime et de cette aporie de la victime sans un relèvement par un tuteur comme la transcendance.
Dieu vous entende, si j'ose dire.
Oui.
Peut-être. J'avoue que je ne sais pas. J'ai l'impression, là, quand je regarde les mouvements très contemporains auxquels je faisais allusion tout à l'heure, qui coexistent avec ce que vous dites, avec les formes de justice de réparatrice, etc. Quand je vois ces mouvements, j'ai le sentiment plutôt que nous sommes arrivés dans une impasse. Alors, je suis sûr qu'on en sortira de cette impasse, et je crois que Marx avait raison quand il disait à peu près l'humanité se pose les problèmes qu'elle peut résoudre. Et je crois que c'est très profond, mais je crois que nous sommes là, peut-être pour encore quelques temps, sans doute même, nous sommes là dans quelque chose qui ressemble à une impasse. On ne sait pas comment en sortir, on ne sait pas comment refaire du vivre ensemble. D'ailleurs, je n'invente rien. Le moindre politicien en herbe vous raconte ça, vous dit il faut refaire du vivre ensemble.
Ce qui est très contemporain aussi, Françoise Zouvi, c'est le contexte de la guerre. C'est que là, on a parlé au passé de la guerre, oui, la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, qui est tout un chapitre, d'ailleurs, une partie du chapitre que vous consacrez. Mais la guerre est de nouveau à nos portes. Mm. Elle va rentrer dans notre, malheureusement, dans notre quotidien. Et est-ce qu'elle ne va pas avoir un effet? Est-ce qu'elle ne va pas relancer la fabrique à héros?
Ah, c'est possible. C'est possible. On voit bien qu'elle le fabrique en Ukraine. Ça, c'est très clair. On voit bien en Iran la situation de l'Iran fabrique, si je puis dire.
Et des femmes, bien sûr.
C'est ce que j'allais dire. Des héroïnes. Donc, il est parfaitement possible que le chaos qu'on nous promet et vers lequel peut-être nous allons refabrique des héros qui, cette fois-ci, seront positifs. Mais ni vous ni moi n'en savons rien, en réalité.
Est-ce que, bien sûr, et c'est pas dans cette, avant la fin de cette émission qu'on va résoudre cette énigme, mais la question de la victime pose celle du sacré, vous l'avez dit. Est-ce que la manière de combattre un sacré malsain, c'est pas ce que vous avez fait, Françoise Zouvi, c'est de le parler, c'est de le décrire, c'est d'en parler et de... Est-ce qu'on ne pourra dépasser ce sacré qu'à condition d'en avoir pris conscience?
Peut-être. Je tiens en effet, je suis content que vous le souligniez, au découplage du religieux et du sacré. Plusieurs auteurs, des sociologues, des philosophes, au contraire, veulent que le religieux et le sacré soient totalement identifiés. Moi, je ne le crois pas, et je ne le crois pas avec plusieurs bons esprits, certains d'autrefois, certains contemporains. Je crois que le sacré excède le religieux très largement.
Eh bien, merci beaucoup, François Azouvi, du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré. C'est chez Gallimard. Esprit de justice est terminé. À la technique, il y avait ce soir Jean-Guilain Meige, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chaperon, une émission d'Antoine Garapon.